Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Laffen & Co, la collégiale de Laffen, le numéro 66. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, la réalité virtuelle. Alors, le sujet est connu, tout le monde a déjà entendu déjà le terme de réalité virtuelle. On va voir ce qu'on met derrière les mots et surtout, on va voir ce que ça peut donner en formation. C'est-à-dire comment la réalité virtuelle va réinterroger la formation. Est-ce que ça change tout? Et comment est-ce que dans les entreprises, on peut s'approprier cet outil pour avoir une pédagogie nouvelle? Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que ça vaut la peine? Et pour ça, on a la chance d'avoir Manal avec nous. Bonjour Manal.
Bonjour Stéphane, merci. Et merci à Bertrand d'être là avec nous aujourd'hui. Et justement, comme le dit Stéphane, on met beaucoup de choses, on entend beaucoup réalité virtuelle, mais on aimerait bien entendre le point de vue d'un expert. Qu'est-ce qu'on met derrière et comment on peut définir ces deux mots?
Et Bertrand Wolf a écrit un ouvrage là-dessus, j'avais oublié de le dire. N'hésitez pas, on mettra les notes à la fin de l'émission de façon à pouvoir le commander. Je l'ai lu. Il est passionnant, donc je vous invite à le lire. Ça se lit très vite et très en profondeur comme on veut. Et c'est aussi l'inventeur du pavillon. Donc il va nous raconter toute cette histoire. Bertrand.
Bonsoir tous les deux. Merci de votre accueil. Donc je suis Bertrand Wolf, effectivement je suis le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Antilogy et d'un lieu qui s'appelle le pavillon. Le pavillon est situé à Paris, à côté de République. C'est un lieu que nous avons ouvert avec mon associé, Émilie Gobamignot, en mars 2018. Et la spécificité de ce lieu, c'est de permettre aux entreprises de venir y découvrir, y tester surtout, le potentiel de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans une utilisation en entreprise. Donc on n'est pas du tout dans le cadre habituel, ou en tout cas que l'on connaît plus facilement de la réalité virtuelle pour de l'entertainment ou pour du gaming. Voilà, chez nous, on ne tue pas de zombies, mais on regarde comment on peut mettre à profit cette technologie ou ce média, j'aime bien en parler comme un média, pour en faire un avantage concurrentiel, puisqu'on est dans le champ des entreprises. Et effectivement, tu as raison, Manal. La question qu'on nous pose le plus souvent, c'est qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle? Et puis, c'est quoi la différence avec la réalité augmentée? Voilà, c'est deux termes qui commencent à être connus dans le grand public, mais ce sont des technologies qui ont encore été assez peu essayées. Il y a une étude du CNC qui est sortie au printemps et qui montre que plus de 60% des Français n'ont jamais essayé ni la réalité virtuelle ni la réalité augmentée. Et parmi ceux qui l'ont essayé, l'immense majorité l'a fait juste une fois, en passant dans un musée, en passant dans un supermarché ou en passant dans une salle de jeu de VR. Alors, en réalité virtuelle, en fait, on est dans un dispositif qui va vous couper du monde réel et vous plonger dans un univers 100% digital. Donc partout où vous allez regarder autour de vous, vous serez dans un environnement digital qui pourra être fait à partir d'une vidéo ou fait à partir d'images de synthèse.
Est-ce que c'est bien pour ça qu'on les appelle immersives ou des deux différents?
Alors immersif parce qu'effectivement, oui, on est plongé dans un contenu digital. Encore une fois, en VR, en réalité virtuelle, ce contenu digital remplace le monde réel, alors qu'en réalité augmentée, on interpose une couche digitale entre toi et le monde réel. L'application la plus connue, la plus téléchargée au monde en matière de réalité augmentée, c'est Pokémon Go, c'est la chasse aux Pokémon. Évidemment, Stéphane, tu passais des heures à chasser les Pokémon, toi aussi, Manal, c'est normal. Et ben ça se fait quoi? Ça se fait avec un iPhone ou une tablette qu'on tient devant soi. On y voit le monde réel, le parc, la rue, l'endroit où on se trouve, et on voit apparaître une couche digitale. C'est les petites bestioles qu'il faut attraper. C'est exactement le même cas pour les filtres Snapchat, par exemple. On voit une couche digitale qui s'interpose sur la tête de vos camarades. C'est de la réalité augmentée. Et puis on commence à parler
de la réalité mixte.
On commence à parler de réalité mixte. Tu m'ôtes les mots de la bouche, Stéphane. La réalité mixte, en fait, la couche digitale qu'on interpose entre vous et le monde réel, elle interagit avec ce monde réel. Autrement dit, dans le cadre de la réalité mixte, on va pouvoir faire apparaître des choses qui vont tenir compte de l'environnement réel. Donc on va poser des choses sur une table qui existe réellement devant vous. Et cette chose, si on lui donne vie, elle va pouvoir sauter de la table sur le sol, puis remonter sur l'étagère à côté de vous. Voilà, ces diverses technologies permettent évidemment plein de cas d'usage très différents. Et en général, on part du cas d'usage, c'est-à-dire de ce que l'on veut faire pour choisir derrière la technologie la plus appropriée, AR, VR ou MR.
C'est souvent dans le gaming qu'on le retrouve, la réalité virtuelle.
Alors, c'est ce qu'on pense en général, mais il faut savoir que le marché du jeu vidéo en réalité virtuelle n'est pas très important pour l'instant. Le jeu de réalité virtuelle qui a eu le plus de succès s'appelle Beat Saber. C'est un jeu qui est formidable en tant que jeu, même avant d'être de la VR, puisqu'il faut 8 secondes pour comprendre les règles et 10 pour devenir complètement accro à ce jeu. Il a été chargé plus d'un million de fois dans les 8 premiers mois de son existence. Alors on dirait que c'est beaucoup, un million de fois, mais un million de fois pour un jeu qui vaut 29 euros, ça ne fait que 29 millions d'euros de budget comparé au budget et au marché du jeu vidéo classique, c'est encore relativement limité. Alors, il y a un autre aspect dans le gaming en VR qui est intéressant, c'est le développement des lieux d'entertainment, des VRLBI, comme disent les spécialistes. On trouve une bonne centaine de ces lieux déjà en France, hein, et sur tout le territoire, où on peut venir soit seul, soit à plusieurs, vivre des expériences en réalité virtuelle, qui sont souvent des expériences de gaming, qui peuvent être par exemple des escape games en réalité virtuelle. Mais là où ça se développe le plus rapidement aujourd'hui, ben c'est en entreprise. C'est en entreprise sur des aspects marketing d'abord, puisque les premiers départements d'entreprise à s'être intéressés à la réalité virtuelle, c'était plutôt les services de marketing et de communication qui ont voulu un peu surfer sur la vague de la nouveauté hein, dès 2016, puis en 2017, et puis un peu profiter de l'effet de sidération. Hein. Si vous avez mis la tête dans un masque, il y a toujours un petit effet waouh quand l'expérience est bien faite, hein, quand l'immersion est réussie. Donc c'est d'abord le marketing et la communication qui s'en sont emparés. Et puis sous la poussée de la curiosité de certains formateurs, responsables de formation, responsables de digital learning, et puis aussi grâce au travail des responsables d'innovation en entreprise, eh bien la formation a commencé à se développer assez sérieusement. Donc je vais revenir sur le pavillon que j'évoquais tout à l'heure, ce lieu qu'on a ouvert en mars 2018. C'est un lieu donc où on a réuni des centaines de cas d'usage développés par des producteurs. On est en relation avec plus de 200 entreprises qui produisent des contenus et des expériences en réalité virtuelle. Et quand on a ouvert le pavillon, on avait 150 cas, je crois, parmi lesquels les cas issus des ressources humaines, donc au sens large, hein, donc y compris formation, pesait à peine 10%. Ouais. Aujourd'hui, on a plus de 500 cas, en tout cas on a arrêté de compter au-delà de 500 cas. Et juste sur les sujets de formation soft skills sur étagère, on a identifié une centaine d'applications. Donc c'est un indicateur de la vitesse à laquelle ça se déploie en entreprise aujourd'hui.
Ça prend la forme de casque. On parle souvent de retour haptique ou de choses comme ça. Comment est-ce que ça se matérialise avant de rentrer dans la formation?
Oui, alors la réalité virtuelle, enfin dans son acceptation la plus simple en tout cas, c'est effectivement un casque avec ou sans manette. Ce casque, on le met sur les yeux. On utilise aussi un casque audio ou alors il est intégré au masque de réalité virtuelle, et donc son solidité, l'ouïe et la vue, d'accord. Les manettes permettent, le cas échéant, selon les modèles de masque et puis selon l'expérience, bien sûr, d'interagir. avec des choses qui apparaissent devant nous, qui peuvent être du texte, de l'image, du son, des objets virtuels. Et puis, si on veut activer d'autres sens, on peut y ajouter effectivement des effets haptiques, qui ne sont pas encore très répandus, mais qui commencent à apparaître. Par exemple, on va vous donner l'impression, quand vous appuyez sur un bouton virtuel, en réalité virtuelle, on va vous donner l'impression que vous avez appuyé sur un vrai bouton. C'est-à-dire qu'on vous aura mis au bout des doigts un dispositif qui vous envoie une petite impulsion électrique, qui dans la vraie vie ressemble pas du tout au toucher, mais qui, mise en condition dans la réalité virtuelle, fait que votre cerveau vous dira « Ah oui, ok, là j'ai bien appuyé sur le bouton, j'ai bien soulevé un levier ». On commence à voir aussi des expériences qui mobilisent l'odorat. J'ai pu tester, par exemple, à Laval Virtual en mars dernier, Laval Virtual qui est le plus ancien et le plus important des salons européens consacrés à la réalité virtuelle, puisqu'il existe depuis plus de 20 ans. J'ai pu y tester un dispositif d'entraînement, de sécurisation à l'incendie, qui était de la réalité mixte, c'est-à-dire j'étais dans un espace où il y avait une vraie table, et soudain, le feu se déclenchait sous cette table. Et je devais saisir un vrai extincteur pour en faire sortir une mousse fictive, virtuelle, pour éteindre l'incendie virtuel. Tout ça avec l'odeur de la fumée dans les naseaux. C'était extrêmement réaliste et le stress était vraiment très présent, du coup.
C'est vrai que les imprimantes olfactives existent depuis 20 ans. Sauf que ça avait été testé, je sais que Monoprix avait fait le test pour Noël, mettre l'odeur du sapin, etc. Mais c'était plus gadget et on ne savait pas trop quoi en faire, pour être assez sincère. Alors que maintenant, ça rentre dans le processus immersif, donc c'est une vraie pédagogie.
Oui, alors je n'ai pas vu encore réellement de cas très développés qui faisant appel à ces technologies-là, mais il y a des gens qui y travaillent, il y a de la recherche qui est menée là-dessus, et surtout l'aptique en général. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu voir le film de Spielberg qui s'appelle Ready Player One, qui est sorti fin 2017 et qui décrit un monde futuriste, en tout cas dans 20 ans, où tous les gens passent une grande partie de leur vie dans un environnement virtuel qui s'appelle l'Oasis, car dans cet environnement, ils peuvent avoir une vie économique et sociale bien plus enrichissante que dans la vraie vie où le système climatique et le système économique ont continué de s'effondrer. Et en fait, une grande partie des technologies qui sont données à voir dans ce film existent déjà aujourd'hui et on n'est pas très loin de la combinaison que porte le jeune héros du film qui lui permet de ressentir le toucher, par exemple, ou un impact si il reçoit un coup.
Alors, en formation, qu'est-ce qui existe? Tu as parlé des soft skills. Alors, bien sûr, tout ce qui est hard skills, c'est peut-être plus traditionnel, mais qu'est-ce qui existe aujourd'hui?
Oui, alors, c'est traditionnel, mais en fait, c'est marrant de penser que c'est des traditions qui ont quelques mois, hein, parce que les masques qui sont sur le marché aujourd'hui, c'était des protos il y a 4 ans, et quasi de la science-fiction il y a 5-6 ans, en tout cas. Cette qualité de masque à ce niveau de prix, c'était clairement de la science-fiction il y a 6 ans. Et donc effectivement...
Le prix d'un masque, ça coûte combien en...
Ça coûte entre 200 et 2000 euros, voilà, selon la puissance en fait, de l'ordinateur qui va être mobilisé. À 200 euros, l'ordinateur est intégré dans le masque, c'est-à-dire ça fonctionne comme un smartphone et on va charger des applications. À 2000 euros, c'est un masque de qualité professionnelle couplé à un ordinateur qui a une bonne puissance de calcul. Mais là, encore une fois, le choix du matériel se fait en fonction du type d'usage que l'on veut, du type d'expérience qu'on veut faire vivre et du type de déploiement qu'on va choisir. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans le cadre d'une expérience qu'on va faire vivre à quelques dizaines de personnes ou à quelques centaines ou à quelques milliers, évidemment.
Donc, comment ça se décline au départ? Moi, j'ai entendu que la RATP utilisait pour ses chauffeurs de bus la réalité virtuelle pour qu'ils apprennent, parce qu'ils ont un seul trajet, pour qu'ils apprennent leur trajet. Comment ça s'organise?
Alors, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de sujets liés à la formation peuvent intégrer de la réalité virtuelle. Alors, je dis intégrée, parce qu'en fait, à date, il ne faut pas considérer que la réalité virtuelle remplace, enfin, balaye tout ce qui existe en matière de formation. C'est plutôt un nouveau média qui est mis au service des formateurs, des ingénieurs pédagogiques, et qu'ils vont utiliser comme tel. Et en tant que nouveau média, toute la grammaire n'est pas encore définie. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant, et j'encourage tous les formateurs et concepteurs pédagogiques à s'y intéresser, parce qu'il y a un champ des possibles qui est assez vaste, et qui en tout cas n'est pas encore délimité.
Et c'est accessible à tout le monde, parce qu'on dit souvent qu'il y a entre 20 et 30% des gens qui ont du mal à supporter le temps de latence, un peu le mal de mer de la réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a des gens qui sont incompatibles avec la réalité virtuelle ?
Alors, les gens qui sont réellement incompatibles avec la réalité virtuelle sont assez rares, Dieu merci. Vous savez, des gens qui vont avoir un problème de vision lourd, et les gens qui peuvent être susceptibles au déclenchement de crises d'épilepsie, comme c'est le cas avec le jeu vidéo. C'est, à ma connaissance, les seuls cas. Pour celles et ceux qui veulent creuser ce sujet, il y a un très bon document qui vient de sortir, émis par la VR Connexion, qui est une association professionnelle de la VR, sous le nom de Charte éthique, et qui fait un tour, c'est sorti la semaine dernière, hein, fin octobre, et qui fait un tour de tous les phénomènes de mauvaise utilisation et les conséquences de la réalité virtuelle. Mais pour revenir au cas que tu évoques le plus simple, Stéphane, hein, c'est effectivement le mal des transports, le motion sickness, comme on dit en anglais. Et faut comprendre que c'est lié à un phénomène simple. En fait, c'est un décalage de l'information que reçoit le cerveau entre ce que dit le corps. Donc le corps va dire je suis assis et je ne bouge pas, ou je suis debout et je ne bouge pas. Et ce que les autres sens, notamment les yeux, vont dire au cerveau. Oh là là, ça bouge. Donc l'exemple type, c'est je fais un tour sur un grand 8 dans un masque de réalité virtuelle. Bah, pour mon corps, je suis bien assis dans le fauteuil, et pour mes yeux, ça bouge dans tous les sens. Et le cerveau, quand il reçoit ces deux infos dissonantes, il a une tendance naturelle, enfin historique en tout cas, préhistorique même je dirais, il a une tendance préhistorique à faire confiance au corps, parce que le corps ne ment rarement, alors que les yeux qui mentent, ça existe, ça s'appelle une hallucination. Et depuis la nuit des temps, ce qui nous donne des hallucinations, ce qui peut nous donner des hallucinations, c'est un truc qu'on aurait mangé, qui était pas frais, voire empoisonné. Et dans ces cas-là, dans le cadre de la mise en place d'un schéma de défense, le corps se prépare à expulser ce qui nous a fait du mal. D'où ce sentiment de nausée, voilà, lié au mal des transports. Si on a ça en tête, du coup, on se dit que toutes les applications où il n'y a pas trop de mouvement, où on ne force pas le mouvement, où on ne se force pas à bouger, où les mouvements sont calmes et naturels, ne vont pas générer ce mal des transports. Je veux dire, c'est un point que les concepteurs d'applications de réalité virtuelle ont appris à dompter au fil du temps. Et si on regarde des applications qui aujourd'hui ont 3 ans, c'est vrai qu'on va en trouver une plus grande proportion qui ont tendance à déclencher ça, alors qu'aujourd'hui, très très peu.
Et pour autrement dit, ceux qui ont déjà eu une mauvaise expérience devraient réessayer, parce qu'il y a de grands progrès qui ont été faits.
Ah oui, ça c'est clair. C'est des progrès de conception, et puis simplement aussi des cas d'usage qui sont extrêmement variés. Les premières personnes à avoir testé la VR il y a 3 ans, 3 ans et demi, il y a de fortes chances qu'ils l'aient testé à l'occasion d'un tour dans un grand 8. Et ils ont tiré 2 conclusions. Un, c'est fait pour se divertir. Et 2, le divertissement n'est pas bon parce que ça fait vomir. Si je le fais très court. Et c'est ce que dit très bien Jos Berchin, qui est un des grands influenceurs de RH technologie aux États-Unis. Il dit, j'ai testé la VR il y a quelques années dans un cardboard, c'est-à-dire un masque de réalité virtuelle en carton dans lequel on glissait son smartphone. Et il a dit, franchement, c'était pas terrible. Eh bien, je dois reconnaître que je m'étais trompé. Et pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il y a quelques mois, au courant de cette année, il a testé des applications de réalité virtuelle qui ont été développées pour la formation et qui sont utilisées par Walmart. Donc effectivement, les gens qui ont une mauvaise première expérience qui date déjà d'il y a un moment, je les incite à se replonger en immersion sur le sujet. Nous, au pavillon, en un peu plus plus d'un an et demi, on a reçu plus de 5000 personnes.
S'ils veulent venir, alors ils peuvent aller sur les salons professionnels, ils peuvent aller à la FNAC, enfin il y a plein d'endroits où on essaye avec souvent des jeux. Mais s'ils veulent venir au pavillon, comment est-ce qu'ils s'y prennent?
Alors, pour essayer la réalité virtuelle, c'est simple. Donc il y a deux grands salons, il y a la réalité virtuelle dont je parlais, puis il y a Virtuality qui a lieu, lui, en novembre à Paris. Il y a aussi beaucoup de salons professionnels qui intègrent, où on peut croiser de la réalité virtuelle. Et puis, il y a le pavillon, voilà, qui est présent de façon permanente. Alors, on y accueille les curieux lors d'une visite courte mais marquante, je l'espère, le vendredi matin. Donc, il suffit de taper « visite guidée le pavillon » sur votre moteur de recherche préféré, puis vous accéderez à un petit formulaire d'inscription. Ça, c'est pour être sûr que... il y aura un nombre de personnes limitées et qu'on pourra bien s'en occuper. Et puis sinon, sur notre site, hein, le pavillon immersif, on peut prendre contact avec nous là, pour organiser des visites, des sessions professionnelles, hein, c'est-à-dire en groupe de 10, 15, 20 personnes. Et pendant 2 heures, 2h30, 3 heures, on mettra en place des tests d'expérience qu'on aura choisis en fonction... du secteur d'activité, du métier des gens, de leur niveau de culture sur la VR, et puis éventuellement d'une problématique qu'ils nous auront partagée.
Ça coûte combien pour suivre ce parcours?
Alors, une session de 3 heures pour un groupe de 15 à 20 personnes, c'est environ 3 500 € hors taxes. Et les gens repartent de là. Quand on a bien fait notre boulot, ils se disent, je ne pensais vraiment pas qu'on pouvait déjà faire autant de trucs avec la VR. Donc, vraiment cette idée de leur faire découvrir le potentiel. Et deux, on aime bien les faire repartir un peu frustrés de cette visite, c'est-à-dire en mode quand et comment on peut s'y mettre.
Moi, j'aimerais bien revenir sur les potentialités de ces technologies. Stéphane avait parlé des soft skills. Vous nous avez parlé, par exemple, l'exemple de l'extinction de feu ou d'autres exemples comme ça pratiques. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a déjà des solutions que vous avez, des cas que vous avez rencontrés dans des formations qui sont plutôt, qui ne demandent pas, par exemple, de prendre quelque chose ou de sentir quelque chose. Par exemple, je veux enseigner la comptabilité ou l'innovation. Est-ce qu'il y a des choses qui sont liées à ce type de formation ou c'est encore, pour l'instant, c'est pas encore visé?
Non, alors aujourd'hui, on peut quasiment tout faire, hein, puisqu'il y a même des outils bac à sable dans lequel, grâce auxquels on peut reconstituer en réalité virtuelle n'importe quelle situation d'interaction humaine entre deux personnes, ou entre une personne et un petit groupe, ou entre une personne et une foule nombreuse. Donc on peut tout à fait imaginer entraîner des jeunes enseignants à la meilleure façon de, non pas de délivrer le contenu sur le fond de ce qu'ils ont à délivrer, mais sur la gestion, je parle sur le contrôle, hein, mais la gestion la gestion d'une classe. Comment je réagis quand il y a le feu dans la fac? On sait très bien qu'un exercice d'incendie, c'est pas très stressant parce qu'on sait que c'est qu'un incendie. On sait très bien que les consignes, elles sont pas compliquées à apprendre non plus, hein. Si on s'y met dans 5 minutes, on les a toutes. Par contre, comment on réagit quand on est aussi stressé que les gens à qui on doit faire appliquer un certain nombre de consignes? Ça vaut pour n'importe quel environnement, y compris celui de l'enseignement. On peut aussi imaginer, c'est une des forces de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir recréer des situations rares, ou des situations à risque, ou des situations qui sont quasi impossibles à faire dans la vraie vie. Donc, je vais prendre un exemple, je ne sais pas s'il est relevant, mais on pourrait apprendre à un jeune enseignant à réagir lorsqu'un de ses étudiants pète un câble et devient agressif, voire violent. Évidemment, dans la vraie vie, on peut le mimer dans le cadre d'une formation, sauf que ça restera un jeu de rôle. Et il y a la notion de jeu et on n'ira pas très loin en termes d'agressivité. Puis, si on se sent mal en tant qu'apprenant, on dira « bon, ouais, arrête un peu, là, c'est bon, quoi ». En réalité virtuelle, en fait, on est complètement pris et happé par la situation. Si l'expérience est bien faite, le cerveau oublie qu'en face de nous, on a des avatars. et on réagit comme si c'était vrai. En fait, c'est ça la force hein, de la réalité virtuelle, c'est que ce qu'on fait en réalité virtuelle ne rejoint pas la base de données connaissances dans le cerveau, mais réellement la base d'expérience. Et si on était dans un jeu vidéo, on dirait qu'on gagne des points de vie ou des points d'expérience. Donc on peut donner à vivre des situations qui sont compliquées à faire dans la vraie vie. La société la plus avancée au monde en matière de formation, d'utilisation de la réalité virtuelle pour la formation, c'est Walmart. Bizarrement, c'est aussi le plus gros employeur privé au monde. Hein. Donc c'est des gens qui ont pris le temps de tester beaucoup de choses. Et une des trois formations qu'ils ont testées courant 2016-2017, je crois, c'était une formation au Black Friday, le jour des soldes. Comment je fais en sorte que le personnel en magasin reste performant et lucide un jour d'émeute en magasin, en fait. C'est-à-dire le jour où il y a le plus gros enjeu de business pour l'entreprise, et en même temps, sans doute, le plus gros moment de tension de l'année pour les salariés. Ça, c'est impossible à faire dans la vraie vie en termes de formation. Je ne vais pas prendre 200 figurants qu'on va mettre dans un magasin et puis mettre les salariés dedans pour voir comment ils se comportent. C'est impossible à faire dans la vraie vie.
Tout à l'heure, vous avez parlé, Stéphane avait posé la question sur le prix des casques. Moi, je vais poser la question sur le coût de la scénarisation. Est-ce qu'il faut être une grande entreprise pour faire ce genre de scénario? Ou moi, par exemple, en tant que formateur indépendant ou responsable de formation d'une PME, j'ai les moyens de viser ce type de choses ou ça va venir peut-être?
Alors, tu as les moyens, oui. C'est une très bonne question.
C'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne question et ouf, j'ai l'impression d'avoir apporté une bonne réponse.
Non, c'est une bonne approche.
En fait, il y a trois façons de voir les choses. Soit le problème que tu veux adresser a déjà été résolu par d'autres et les applications en réalité virtuelle existent déjà. C'est ce qu'on appelle des applications sur étagère. Dans ce cas, tu ne vas pas redévelopper complètement le truc, tu vas le prendre tel qu'il est. Et donc, tu vas payer au développeur une licence. Voilà. Il te mettra à disposition, ou alors tu achèteras ton propre masque et tu payeras une licence en fonction de la durée d'utilisation. En général, c'est des licences illimitées, mais il commence à y avoir du paiement à l'usage. Tu vas acheter des jetons. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, tu as un besoin très spécifique. Là, il faut que tu fasses développer une application. Et là, les coûts de développement, la fourchette est assez large, mais ça va être entre 20 000 et 200 000 euros, selon la complexité du scénario, les moyens de production mis en œuvre, le nombre d'interactions, etc. Et puis, il y a un troisième cas de figure, c'est que tu peux utiliser des outils en tant que formatrice ou conceptrice de formation. Tu peux utiliser des outils qui te permettent de développer toi-même tes contenus immersifs. Donc, il y a plusieurs plateformes qui existent sur le marché, qui s'appellent Uptale, qui s'appellent Sphere, qui s'appellent Space de Honda, par exemple, qui te permettent, un petit peu comme si tu faisais du montage audiovisuel, d'intégrer des éléments en 360, c'est-à-dire des éléments en réalité virtuelle, et d'y intégrer ton propre scénario pédagogique à base de questions, d'interactions, de QCM, plus ou moins gamifié, pour faire avancer les apprenants dans la mise en situation, dans l'exercice que tu auras conçu. Là, il suffit en fait d'acheter la licence, de payer la licence de cet outil-là que tu as à disposition pour créer tes propres scénarios pédagogiques en fait.
Et on a besoin d'une formation ou on peut s'auto-former pour utiliser ce type de logiciel?
Bon, les différents intervenants que j'ai cités te proposent chacun des formules pour te permettre de prendre en main l'outil. Voilà, ils ne demandent pas de faire des années d'études, ils demandent un petit peu de formation et de prise en main, bien sûr.
Donc ça, c'est bien, ça veut dire que c'est accessible, on peut le produire soi-même. Si, voilà. Donc ça, c'est très important parce que ça permet aussi, c'est bien aussi de mettre les mains dans le cambouis. C'est important. Et après, comment est-ce qu'on l'intègre dans un processus pédagogique? C'est-à-dire si on fait 5 minutes le matin avant de se lever ou...
C'est ça. Quelles sont les bonnes pratiques? Alors là, c'est C'est vraiment à la décision de la personne qui conçoit les parcours pédagogiques. C'est-à-dire que ça peut être en amont, pendant et à la fin d'un parcours pédagogique. En amont, ça peut être de l'assessment. C'est-à-dire que le même module de formation va être utilisé en assessment. L'une des grandes vertus de l'AVR en formation, c'est que on peut donner aux gens la possibilité de se tromper, ce qui n'est pas toujours facile dans la vraie vie. Donc en VR, on peut faire des erreurs, on peut casser du matériel, on peut se blesser, on peut même mourir hein, en formation en réalité virtuelle, ce qui n'est évidemment pas le cas dans la vraie vie. Et tout ça, c'est pas très important. Et donc en termes du coup de process pédagogique, là où toute notre vie, on nous dit surtout tu mets pas les doigts dans la prise, en espérant qu'on retiendra la leçon toute notre vie. En VR, on peut laisser les gens mettre les doigts dans la prise. C'est pas très très grave. Donc on peut très bien se dire qu'on va laisser les gens découvrir eux-mêmes les choses pour constater qu'ils en font la moitié, les deux tiers, les trois quarts très bien. Et du coup, on va tout de suite les récompenser sur ces sujets et on va mesurer en fait que ce sont des acquis. Et ensuite, on va se concentrer sur là où il y a des marges de progression les plus importantes. Donc, premier cas d'utilisation, c'est de l'assessment. Deuxième cas d'utilisation, bah, c'est en cours de route et ça va être un peu la VR peut constituer les travaux pratiques d'une session ou d'un parcours de formation. Par exemple, si on est sur truc très classique désormais en VR qui est de la prise de parole en public, si on est sur une journée de formation, comme ça se fait à 6, 8, 10 personnes, avec un coach spécialisé, le matin, il va nous donner des bonnes pratiques, il va nous montrer aussi des mauvaises pratiques, on va peut-être tourner une ou deux vidéos, on va se présenter, il y a les tips. Ensuite, on va travailler un pitch en 5-6 minutes qui va nous aider à écrire. Et puis après, bah, au lieu de se lever à tour de rôle et de faire ce pitch devant les 5 ou 6 personnes ou 10 personnes qui sont soit des collègues, soit des confrères, soit devenus des potes parce qu'on est en formation depuis ce matin, puis qu'on s'entend bien, il y a une bonne ambiance. Et là où ça ne va pas marcher en termes de stress, hein, parce que ce n'est pas une foule, et bien au lieu de faire ça, on va mettre la tête dans un masque et puis on va se retrouver devant 10 personnes ou devant 150 personnes, devant une foule, et on va délivrer son pitch. Soit sous l'œil de la machine qui va analyser un certain nombre de data, soit sous l'œil directement du coach qui va scénariser les réactions de l'audience et de la foule.
Et ça, par exemple, ça existe, ça se vend déjà comme type
Oui.
d'app.
Oui.
Donc, c'est un message pour les entrepreneurs ou ceux qui veulent développer des startups pour développer des pitchs, peut-être.
Absolument, et il y a toutes les modalités, hein, celle où c'est vraiment un outil à la disposition d'un coach et le coach va piloter la foule, ou des outils qui sont des outils d'entraînement où on peut répéter voilà, la veille d'un pitch, au lieu de parler devant son miroir ou à son conjoint, de répéter son talk, ben on va le faire on va le faire devant une ou deux personnes, devant une petite assemblée virtuelle. Et on va pouvoir être corrigé sur là où on a porté l'attention du regard, sur le nombre le débit, sur le nombre d'hésitations, je suis en train d'hésiter, le nombre d'hésitations, sur le stress aussi. On parlait d'aptique, mais sur certaines applications, on peut mesurer le stress. Et puis sur ce type d'application, on rembobine, on revient en arrière, et puis on voit les moments où on a été le plus stressé, ça peut être intéressant. Et puis demain, enfin c'est-à-dire dès aujourd'hui, certains outils commencent à intégrer la reconnaissance vocale. On ne parle pas d'IA encore, mais l'intelligence artificielle, mais on peut parler d'intelligence conversationnelle et permettre à un avatar de vous donner la réplique, c'est-à-dire de vous poser des questions en fonction de la façon dont vous avez amené un sujet.
Très bien, effectivement. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de belles choses. Ça, c'est en reprenant le cadre un peu traditionnel avant, pendant, quasiment le présentiel. Et puis, mais est-ce qu'on peut pas faire aussi toute une formation en réalité virtuelle? Par exemple, quand on fait des réunions, les gens du quatre coins de la France ou du monde, suivant les entreprises, peuvent se réunir et faire une classe virtuelle complètement.
Oui, bien sûr. Bien sûr, il existe aujourd'hui des dizaines de solutions collaboratives en réalité virtuelle, collaboratives à distance, hein, bien sûr. Donc, certaines sont très spécifiques, hein, elles vont permettre à des designers, par exemple, de faire une revue de projet à distance avec le modèle en 3D qui sera posé en tout petit ou en gigantesque, hein, en tout petit si c'est un immeuble, en gigantesque si c'est une tasse à café devant eux. Il y a aussi des outils récréatifs, évidemment, en collaboratif en réalité virtuelle. Je vous laisserai les découvrir, c'est assez fascinant. Et puis, il y a des espaces d'enseignement en réalité virtuelle. C'est-à-dire que vous pouvez convier des centaines de personnes dans un amphi ou une vingtaine de personnes dans une salle de classe. Vous pouvez organiser des réunions et vous allez louer des salles de réunion comme dans la vraie vie, où vous allez faire designer votre propre salle de réunion qui pourra être équipée en fonction de votre problématique. Est-ce que c'est une salle, je sais pas, pour un sprint selon des méthodes agiles, ou est-ce que c'est une salle du conseil avec un peu de protocole? Donc oui, on peut évidemment d'ores et déjà aujourd'hui réunir des gens distants en réalité virtuelle et ils vont partager un moment. C'est assez fascinant en fait. Je prends souvent l'exemple du téléphone pour dire, pendant 100 ans, le téléphone, il y avait un fil. Le téléphone était filaire. Il était filaire parce qu'on ne savait pas faire autrement. Et puis ensuite est arrivé le téléphone sans fil, hein, le mobile, et on est tous d'accord aujourd'hui pour dire, bah, le vrai téléphone, c'est le mobile. C'est juste qu'avant, ce n'était pas possible. Alors, en réalité virtuelle, je crois que c'est la même chose pour le social. La vraie VR, elle est sociale, parce qu'on est un animal social. Et le fait d'être tout seul dans son masque de VR, il est un peu lié aux conditions, à l'état de l'art actuel de la technologie. Et c'est sans doute pour cette raison que Facebook et que Mark Zuckerberg croient autant et le matérialisent par des investissements importants dans le développement de la réalité virtuelle. Un jour, le réseau social Facebook existera complètement en VR. D'ailleurs, il est annoncé pour l'année prochaine, en tout cas, une étape supplémentaire vers ça sous le nom de Watch. Horizon. Pardon ?
Non, je croyais que tu faisais partie au Watch Party quand ils ont commencé à faire les partages collaboratifs et qui à terme devrait donner le fait de regarder un film en même temps de quatre coins de la Terre. Mais ça veut dire que on a les mêmes sensations et on voit l'avatar d'à côté s'amuser, rire, etc. Et donc on profite tous ensemble. L'idée de Mark Zuckerberg, c'était de réutiliser cette partie-là qui n'est pas en VR pour l'instant, mais pour que ça devienne de la VR après.
Oui, alors ça existe déjà en VR. Il y a des applications qui permettent de regarder des films en VR, alors des films à plat. Hein, on est juste face au plus grand écran du monde, hein, puisqu'il occupe tout le champ de vision. Et on peut être à plusieurs. Je sais qu'on avait fait une expérience où on était 2000. On avait regardé Jumanji à 2000 dans la salle de cinéma. Et c'était assez fascinant de parler avec son voisin péruvien ou sa voisine tchèque. Et il y avait un truc que seul la VR permet de faire, c'est qu'à un moment, si on trouvait l'ambiance un peu bruyante et le voisin un peu chahuteur, il suffisait d'appuyer sur un bouton et on continuait à voir le film, mais depuis la plage d'une île déserte.
Ah oui, c'est génial. Donc ça veut dire qu'avec la VR, on est sûr de l'effet waouh. Ou pas. Parce que tous ceux qui se disent, c'est aussi une façon de réenchanter la formation, des formations qui sont un peu tristes à mourir, et finalement, est-ce que c'est un effet bœuf à chaque fois ?
Alors, je ne sais pas s'il faut miser sur l'effet bœuf ou sur l'effet waouh, mais un des métriques, quand Walmart a décidé d'étendre l'utilisation de la VR, donc ils avaient testé avec trois applications, auprès de 140 000 personnes, je crois, et ils ont décidé de l'étendre à l'ensemble des salariés. Enfin, en tout cas, ils se sont fixés pour objectif cette année, hein, 2019, de former 1 million de salariés sur le 1 200 000 salariés aux États-Unis. Et ils sont passés de 3 à 45, de mémoire, formations différentes. Et ils ont communiqué peu de chiffres sur les raisons ils ont poussé à prendre cette décision d'extension, mais un des chiffres était la note que donnent les apprenants à l'issue d'une formation. Et sur un même sujet, entre une formation, je dirais, classique et une formation en VR, la note attribuée par les apprenants était en moyenne 30% plus élevée. Et vous croisez beaucoup plus de formateurs que moi, tous les deux, c'est certain, mais ceux que je vois me disent la première difficulté de notre métier, c'est de faire venir les gens en formation. Et c'est de faire en sorte, s'ils n'ont pas besoin de venir, qu'ils mettent le nez dans la formation qu'on leur propose.
Depuis tout à l'heure, vous nous donnez plein d'exemples de ce que peut apporter la réalité virtuelle. Moi, je les vois comme des promesses de bouleversement du marché actuel de la formation. Comment vous le voyez, ce marché? Comment ça, est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est dans 2 ans? Est-ce que c'est dans quelques mois? Comment ça va se
Est-ce que c'est à Noël finalement?
Votre avis,
Alors, ben ça dépend de l'audience de l'émission qu'on est en train d'enregistrer
J'espère qu'il y aura d'autres paramètres aussi.
et du fait qu'on aura donné envie aux nombreuses formatrices et nombreux formateurs qui nous écoutent d'essayer et de découvrir. En fait, comme toute nouvelle technologie, le déploiement, c'est d'abord une affaire humaine. Et nous, on l'a constaté parce qu'en fait, les entreprises qui viennent chez nous, quand elles nous disent ben, on veut s'y mettre, comment on fait, soit elles ont besoin d'un développement spécifique et on les dirige vers les développeurs, hein, vers le marché des entreprises qui créent ce type d'application. Soit c'est un besoin qui est déjà traité par une application, donc c'est du sur-étagère. Et là, on va les aider à déployer. C'est-à-dire qu'on fait la curation, on les aide à faire la sélection des bons cas, on les fait avec les bonnes personnes en interne, hein, c'est avec les formateurs et les ingénieurs pédagogiques quand il s'agit de formation. On met ça dans le bon matériel, donc on sélectionne le matériel, et puis ensuite, on les accompagne. Et en fait, on se rend compte que la valeur ajoutée qu'on génère, c'est d'abord sur de l'humain, beaucoup plus que sur de la technique. Même plus que sur le contenu. Alors le contenu est un préalable. Hein. S'il n'y a pas de contenu, c'est une condition sine qua non. S'il n'y a pas de contenu, il se passe juste rien. Mais un contenu dans un masque qui va être lâché dans une organisation, il a toutes les chances de finir sur une étagère et de prendre la poussière et de rejoindre le cimetière des techs qui ont fait long feu. Donc il y a vraiment un travail d'abord de curiosité à éveiller. Alors chez certains. Pas besoin d'éveiller, c'est naturel, mais sinon c'est un peu quand même notre sacerdoce. Et puis ensuite, un travail d'appropriation de ce que l'on propose. Bon. Nous, au début, on disait qu'on avait une activité de distribution sur les produits sur étagère, puis en fait, c'est beaucoup plus une activité d'accompagnement au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on va prendre les gens par la main. Pour leur proposer et non pas leur imposer des possibilités d'utilisation de ce qu'on appelle des briques immersives. Donc on leur donne l'image que c'est à eux de construire le mur et qu'on vient juste ajouter des briques nouvelles dans ce mur qu'ils ont l'intention de faire. Donc pour répondre à la question, est-ce que c'est dans quelques mois? Non. Est-ce que c'est dans 2 ans? C'est probable. Est-ce que c'est dans 5 ans? Oui, c'est certain. En fait, le champ des possibles pour des concepteurs pédagogiques est tellement vaste. Et puis les règles que ça peut changer, le potentiel est tellement important que oui, c'est, enfin, j'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont s'y plonger. Plus la technologie évolue dans le sens de l'usager, c'est-à-dire qu'elle est de moins en moins chère et de plus en plus simple à utiliser. Je dis ça aujourd'hui avec plus de conviction que je l'aurais dit il y a un an et certainement beaucoup moins que je le dirais dans un an, parce que les choses évoluent rapidement et les fabricants de masques font vraiment des efforts pour supprimer un à un tous les pain points de la réalité virtuelle. C'est aussi le cas pour la réalité augmentée, dont je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, qui va être pas mal utilisée donc sur de l'accompagnement de gens qui sont sur le terrain. On parle par exemple de techniciens augmentés ou de maintenance augmentée. Là aussi, il y a une offre de masques et d'outils qui explose littéralement. Ouais.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut choisir l'un ou l'autre, ou on est obligé de prendre les deux?
Non, c'est en fonction du cas entre réalité virtuelle et réalité augmentée.
Ouais.
Non, c'est vraiment en fonction du cas d'usage. C'est-à-dire est-ce qu'on veut plonger les gens dans un environnement complet? Ça va être de la réalité virtuelle. Est-ce qu'on veut faire interagir les gens avec l'environnement dans lequel ils se trouvent, par exemple? Ça va être de la réalité augmentée ou de la réalité mixte.
Une petite question qui émerge en parlant. Est-ce qu'il y a des entreprises, des lieux, des tiers-lieux peut-être, ou peut-être pavillons, qui proposent aux gens qui ne veulent pas investir, par exemple, dans un casque, mais veulent travailler avec, comme on faisait avant avec les PC, des ordinateurs? Est-ce qu'il y a des lieux où on peut aller? On peut payer 1 heure ou 2 ou un abonnement, etc. Est-ce que ça existe déjà ou... pas encore.
Alors, je note l'idée de business à lancer demain matin. Non, ça n'existe pas encore tout à fait. Voilà. C'est-à-dire de lieux avec ces technologies en libre service, en modèle payant, ma connaissance, non, ça n'existe pas. Donc, après, il y a plus de 100 salles de réalité virtuelle pour de l'entertainment. Hein. Il y a certainement moyen, il y a moyen de, je pense, de faire ça. Nous, on le propose au pavillon quand des étudiants ont un projet quand des étudiants ont un projet intégrant de la réalité virtuelle et qu'ils n'ont pas tout le matériel qu'ils souhaitent dans leur école, dans leur fac, nous, on le leur met à disposition au pavillon. Ils passent quand ils veulent, on passe un accord avec leur école. Ils viennent quand ils veulent. Mais pour le grand public, non, à ma connaissance, ça n'existe pas. Peut-être. J'ai entendu qu'il y a quelques médiathèques qui commencent à s'équiper. Il y en a une à Brest, de mémoire, qui s'est équipée. Mais pas plus d'infos que ça.
Est-ce que de la même façon, est-ce que lorsqu'on veut choisir un formateur ou un expert, est-ce qu'il existe des titres en réalité virtuelle? Ou est-ce que c'est des gens qui se construisent en faisant et finalement ce sont des artisans? C'est pas encore bien codifié.
Alors,
est-ce qu'il y aurait des labels?
Non, il n'y a pas encore de. Non, y a, clairement, il n'y a pas encore de label. Il y a quelques organismes professionnels de la réalité virtuelle, mais qui n'ont pas encore labellisé soit des formations, soit des capacités, soit des titres. Non. Donc aujourd'hui, si vous voulez travailler avec des pros de la réalité virtuelle, vous leur demandez, vous regardez ce qu'ils ont fait, tout simplement. C'est encore une fois, c'est tout ça est très récent. Alors, on a en France la chance d'avoir un très bon écosystème de l'audiovisuel, un très bon écosystème du jeu vidéo, puisque ce sont deux activités qui sont notamment dans la création assez soutenues. Et ça, ce qui est formidable, c'est que ce sont deux savoir-faire qui sont très importants et complémentaires pour la création de bonnes applications en réalité virtuelle.
Autrement dit, on a une industrie qui est capable de tenir la route dans ce sujet-là où on est très dépendant des Chinois et des Américains.
Alors, sur le hardware, on est très dépendant des Chinois et des Américains, ça c'est clair. Sur les contenus, non, on a une industrie qui tient très très bien la route face aux autres pays européens et face aux États-Unis. La grosse différence avec les États-Unis, c'est que c'est une industrie qui est sous-investie aujourd'hui par rapport aux levées de fonds qu'on peut constater sur les startups du domaine outre-Atlantique.
Il y a énormément de petites boutiques comme ça, de startups qui émergent.
Écoute, la BPI a fait un recensement en février de l'écosystème ARVR et a recensé plus de 350 startups en France.
Oui, c'est énorme.
Et Pavillon, il accueille principalement des cas francophones, français ou internationaux?
Non, on a 10% de visiteurs étrangers qui sont dans le cadre de Learning Expedition, donc des Européens, des Asiatiques ou des Sud-Américains qui font un tour d'Europe, qui font une étape à Paris, et dans leur étape à Paris, il peut y avoir une sous-étape au Pavillon.
D'accord.
Est-ce que la réalité virtuelle ou augmentée sont des réalités qui sont quantifiables, ce qui permet de calibrer les compétences acquises dans l'expérimentation? Est-ce qu'il y a des tests, au final, une traçabilité d'apprentissage?
C'est une super question.
Merci.
La réalité virtuelle permet de générer une quantité de data proprement incroyable. Ce qui est un vrai sujet d'ailleurs en termes de privacy, hein, parce que on peut enregistrer en fait tous vos mouvements en réalité virtuelle, et j'ai lu que l'empreinte physique, hein, la façon dont on se déplace, est aussi fiable que
le système
d'identification les plus hauts points. Mais en tout cas, oui, on peut quantifier tous vos déplacements. On peut faire par exemple de l'eye tracking et savoir ce que vous avez regardé. Donc, dans le cadre d'une formation, par exemple, on peut se dire que ben, tiens, la personne elle est passée 3 fois au-dessus du truc le plus important à constater et ne s'y est pas arrêtée. Donc là, il y a clairement une lacune. Donc c'est un point qu'il faut renforcer. On peut évidemment mesurer tous les mouvements. Donc, dans le cadre de prise de parole en public, on peut voir si vous balayez du regard toute la salle ou si vous restez concentré sur la personne qui est à gauche au premier rang. On peut voir si vous vous déplacez sur scène ou si vous restez posté dans un coin. Mais on peut faire des choses encore plus sioux, hein. Je pense à une application de peinture industrielle qui permet d'évaluer et de former des peintres industriels, donc qui utilisent un pistolet. Donc il y a un peu d'équipement haptique, puisque la manette de réalité virtuelle qu'on utilise souvent, qui est couplée au masque, là cette fois-ci elle a été jumelée à un vrai pistolet de peinture industrielle. Ce qui fait que vous, qui êtes pro de la peinture, quand vous prenez cet outil en main, votre main vous dit « Ok, c'est un vrai pistolet, je sens le retour de force, la forme, le poids, pas de problème. » Et ça tombe bien, parce que comme vous avez mis le masque de réalité virtuelle, vous vous retrouvez à peindre en fait un bout de tôle ou une voiture. Vous allez faire le geste de peinture, ça va faire pchit, ça va mettre de la peinture bleue sur le bout de tôle, et quand vous aurez fini de peindre, vous allez appuyer sur un bouton. Là, la peinture va changer de couleur selon que vous en avez mis trop ou pas assez. Et là, la précision de l'épaisseur de peinture virtuelle que vous avez déposée est de 15 microns. C'est-à-dire que c'est un truc qui est impossible à mesurer dans la vraie vie. C'est-à-dire que si on veut évaluer la capacité d'un peintre industriel professionnel, on ne sait pas l'évaluer comme ça. Toujours en appuyant sur ce bouton, vous allez faire apparaître la trajectoire que vous avez donnée au pistolet et vous allez faire apparaître l'angle avec lequel vous allez attaquer la surface. Ça va pouvoir vous permettre d'évaluer la personne que vous souhaitez former. Et ensuite, vous allez par exemple vous lui montrer la vraie bonne trajectoire, parce que vous êtes le formateur, vous êtes le super pro. Vous allez pouvoir lui montrer la vraie trajectoire et la personne devra, en réalité virtuelle, essayer de suivre cette trajectoire que vous avez faite. Donc on voit qu'en matière de métriques, on peut générer beaucoup, beaucoup de choses. On peut aussi, je l'évoquais tout à l'heure, mettre des capteurs sensoriels qui permettent de prendre le pouls, bien sûr, le rythme cardiaque, mais qui permettent aussi de mesurer la sudation des doigts, qui sont des indicateurs intéressants. On peut mesurer le nombre de mots qu'on prononce à la minute, on peut mesurer le nombre d'hésitations, j'évoquais tout ça tout à l'heure, et on peut coupler tout ça, évidemment, pour voir si dans une expérience à plusieurs, en formation, comment on va identifier un leader, par exemple. Est-ce qu'il parle beaucoup, ou au contraire, est-ce qu'il parle pas? Est-ce que quand il parle, il agit, ou pas? Est-ce que les autres s'arrêtent d'agir quand il lui parle, ou pas? Voilà, il y a toute une combinatoire. Quand je disais tout à l'heure que la grammaire n'est pas encore écrite, vraiment, c'est avec ce genre de choses qu'aujourd'hui on peut travailler à imaginer des outils pour des formateurs ou pour des coachs.
Donc l'idéal, c'est d'avoir soit des modèles qui sont construits, qui sont en construction, puisqu'on ne les a pas encore, soit c'est de travailler avec le big data, d'être capable de brasser toutes ces données. Et donc ce sont les algorithmes qui vont générer tout ça. Et donc, ça pose d'autres questions de comment j'évalue, puisqu'un être humain ne pourrait pas analyser avec la même précision. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on laisse la machine savoir qui est bon, qui est performant, qui...
Là, sur l'exemple de la peinture, en fait, il n'y a pas de big data, hein, puisqu'on va mesurer la performance, entre guillemets, avec un petit p, mais on va mesurer la façon dont une personne a utilisé l'outil. Il y a toujours à côté un formateur qui va dire, tu vois, là, tu as mis trop de peinture, mais... Parce que tu vois, tu as attaqué la tôle avec la main était trop ouverte, donc essaye de corriger le geste à ce moment-là. La big data ne pourrait servir dans ce cas-là qu'à décider d'un modèle normatif, qui n'est pas relevant dans ce cas de figure. Mais les questions que tu poses liées à l'utilisation de la big data sont les mêmes pour la VR que pour le reste des utilisations, bien sûr. Il n'y a rien de particulier. Encore une fois, la réalité virtuelle n'est qu'un outil. Donc, l'outil a des capacités qui dépendent uniquement de celles de la personne qui l'utilise.
Et est-ce qu'il y a déjà des émergences de nouvelles réglementations par rapport à ça? Parce que c'est un marché en croissance, d'après ce qu'on comprend. Et il y a de nouvelles règles ou tout est encore à écrire, comme la grammaire comme...
Non, des précautions d'usage sur à partir de quel âge on peut mettre la tête dans un masque de réalité virtuelle. ça reste à définir, hein, mais les conditions générales des fabricants de masques interdisent, par exemple, enfin recommandent de ne pas utiliser ce masque en dessous de 12 ou 13 ans, selon le fabricant. Mais pour répondre directement à ta question, non, il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de réglementation encore.
En France, en tout cas, on n'a pas encore discuté la question.
Non, et même, je n'ai pas souvenir d'en avoir vu dans les pays anglo-saxons pour l'instant, et évidemment pas en Chine, qui est un pays très avancé en matière de réalité virtuelle, plus qu'en matière de réglementation, je crois.
C'est clair. Tout est à écrire là-bas, c'est ça.
Oui, il y a toute une grammaire à inventer, effectivement.
Absolument. Ben, merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Ouais. Si tu avais un responsable de formation qui se dit « j'aimerais démarrer », quelle est la première action que je dois mettre en œuvre ? Je commence par quoi ?
Ah, je lui recommanderais de...
Hormis d'acheter l'ouvrage, bien sûr.
Non, mais bien sûr, acheter formé avec la réalité virtuelle, paru dans la collection Le Labérage chez Duno. Merci Stéphane. Non, je dirais de réfléchir à une notion de retour sur investissement. Parce qu'en fait, c'est formidable la réalité virtuelle, mais parfois c'est un peu plus complexe à créer, parfois c'est un peu plus long et parfois c'est un peu plus coûteux que d'autres dispositifs de formation. Et puis, il va falloir convaincre des gens qui ne sont peut-être pas bien au courant de ce que c'est et de ce que ça fait. Bref, le chemin peut être un peu long et pas drôle. Tous ces obstacles seront beaucoup plus facilement balayés, contournés, si c'est basé sur une approche héroïste, c'est-à-dire par rapport à un sujet que j'ai à traiter en formation aujourd'hui, est-ce que j'ai un problème d'impossibilité, tout simplement, ou de dangerosité, ou de coûts élevés. Et à partir de là, oui, on peut commencer à imaginer le meilleur cas pour lequel la réalité virtuelle serait une solution. Donc, je ne sais pas, ça va être par exemple le fait de déplacer la formation vers les gens dans le cadre de formation où il faut déplacer les gens. J'ai peut-être un exemple d'un assureur aux États-Unis qui forme ses experts en dégâts des eaux grâce à la réalité virtuelle. Donc, ils envoient les masques là où sont les experts, hein, à travers les États-Unis. Là où avant, ils les faisaient venir dans une villa de la banlieue de Los Angeles une fois par an. Le coût de l'application a été financé par l'économie sur les billets d'avion la première année. Bon, c'est évidemment, c'est pas le type d'argument qu'on utilise forcément tous les jours pour concevoir une formation en général. Mais il faut s'autoriser à le faire en réalité virtuelle parce que ça va permettre de calculer des ROI. Et il y a deux types de ROI en VR. Le retour sur investissement, bien sûr. C'est-à-dire, est-ce que à budget égal, je peux former plus de monde ou est-ce que je peux former le même nombre de personnes mais avec un budget réduit. Et puis il y a le deuxième ROI que j'aime bien formuler, c'est le return on impossible. C'est-à-dire quand la réalité virtuelle permet de faire des choses qui ne sont pas possibles à faire dans la vraie vie, comme des exemples de situations rares ou dangereuses. Quand la VR permet de sauver des vies, il n'y a pas de calcul de retour sur investissement, mais on est bien sur des returns sur impossible.
Ah, c'est très clair. Donc, merci beaucoup de toutes ces précisions. Je donnerai toutes les informations sur le pavillon ainsi que sur l'ouvrage. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Sinon, on peut te contacter où ? Sur Internet, LinkedIn ?
Oui, LinkedIn, Bertrand Wolf.
Voilà. Impeccable. Merci beaucoup,
Maman. Deux F à Wolf.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Merci.